Et ouais. Puis, Mathilde, avant que ne s'ouvrent en octobre les deux temps forts de l'art contemporain, la Nuit Blanche et la FIAC, que vous venez d'évoquer, Catherine Millet, vous êtes posé une question qui n'est pas une question peu ambitieuse, Mathilde.
Surtout
où
pas
est le beau?
Surtout pas en 5 minutes.
Vous savez que vous n'avez pas 10 heures, hein. Alors, il est où le beau?
Vous avez passé une belle nuit, Guillaume?
Un peu courte.
Est-ce que vous pensez que vous êtes une belle personne?
Je ne me prononcerai pas sur la question.
Est-ce que vous me permettez de vous souhaiter, par avance, un bel appétit?
Vous voulez quoi? Une augmentation?
C'est un signe des temps. Le beau remplace le bon dans les conversations. Et nous franchissons une étape supplémentaire dans un monde où tout est vu sous la modalité esthétique. Une esthétisation à outrance qui se pose partout, mais qui n'adhère nulle part. Les lecteurs conscients reconnaîtront cette forme de la beauté libre qui n'adhère pas, opposée à la beauté formelle adhérente. C'est-à-dire qu'elle ne crée pas substantiellement du beau. C'est l'analyse du philosophe Yves Michaud dans le dernier numéro de Beaux-Arts consacré à la beauté aujourd'hui. Après avoir compris que la beauté était relative aux cultures, aux époques, aux conventions, mais aussi qu'elle était plurielle parce que définie par le plaisir esthétique qu'elle suscite, y compris là où on ne l'attend pas, où en sommes-nous ? Paradoxalement, tandis que la beauté, ou plutôt le discours esthétique, s'étendait, dans l'art, la quête de la beauté semblait reculer. L'art n'est pas le beau, et selon un récent sondage, la notion est intégrée, publiée toujours dans le même Beaux-Arts magazine, à la question « Pensez-vous qu'une œuvre d'art doit forcément être belle ?» Les Français répondent « Non ». À 58%.
Bon.
Mais il ne faut pas s'y tromper. Il y a d'une part une recherche volontaire de la dissidence académique pour faire la peau de la norme et du bon goût, parfois jusqu'à l'écœurement, comme dans les œuvres de Jeff Koons, effectivement. D'autre part, une recherche de sensations d'art, des formes inédites, qui renouvellent la notion d'œuvre et nous mettent face à une inquiétante étrangeté. C'est Louise Bourgeois, c'est Anish Kapoor, par exemple. Alors, on en vient à une définition baudelairienne. Le beau est toujours bizarre, écrit-il, mais il précise. Une bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente. J'en étais là dans mes réflexions. Et à la recherche de cette sensation provoquée, de cette bizarrerie, qui est peut-être la seule certitude qu'on peut avoir et qu'on peut tenter d'appréhender, plutôt que de chercher la définition du beau qui nous échappe invariablement. Jean-Pierre Changeux,
Vous l'appelez à la rescousse, maintenant.
J'appelle Jean-Pierre. Neurobiologiste, contemporain et collectionneur, s'est intéressé justement à ce qui se passe dans notre tête. Ses travaux cartographient la réponse à la perception consciente d'une œuvre. À ce moment-là, il y a une onde particulière appelée inition, qui peut être enregistrée par imagerie cérébrale. On a une trace donc de ce moment où une œuvre nous transporte. La perception varie d'un individu à l'autre, mais il cherche à regarder ce qui se passe de différent dans un cerveau, devant la contemplation d'une œuvre d'Otto Dix ou d'un Nicolas Poussin. Une chose est sûre pour lui, quand une œuvre nous touche, il se passe quelque chose entre émotion et raison qui emprunte un circuit de compensation, un circuit de récompense, dont le neurotransmetteur principal est la dopamine. Et bien sûr, qu'on soit touché pour notre plaisir ou notre déplaisir, c'est une émotion qu'on va rechercher à nouveau. On peut être accro au transport de l'art. Rechercher cette émotion en s'exposant à des œuvres, c'est là la vraie expérience esthétique, plutôt qu'une esthétisation de toutes nos expériences.
Je crois que je vais laisser Catherine Millet réagir.
Oh là là, ça commence dur.
Donc sur la dopamine, Catherine.
Non, peut-être sur le transport d'une œuvre.
Oui,
sur... C'est peut-être la clé, la seule.
Bah oui, mais en fait, le transport, ça veut dire... moi, j'aime une œuvre quand elle me sort de moi-même, en quelque sorte. Et en effet, quand elle me rend meilleure, voilà, meilleure que ce que je suis, je crois que c'est ça. Et... je remarque qu'en effet, mais l'histoire sur la beauté, ça revient un peu, hein, le beau en art quand même. Oui, ça
chez
revient.
Qui
bah, chez des artistes quand même. Il y a à nouveau une. Je crois que McCarthy, c'est une certaine époque quand même. C'est maintenant, il me semble qu'on voit revenir une certaine qualité plastique comme ça dans certaines démarches. Même si a priori, parfois, ça peut aussi choquer. Par exemple. Il y a une sculptrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Berline de Brecker et qui représente des corps à partir de bois morts qu'elle ramasse, de chiffons, de bon alors c'est des corps qui sont en même temps des corps qui ressemblent à des cadavres souvent ou à des corps douloureux et tout bon mais c'est en même temps magnifique. C'est très beau plastiquement, c'est très fort, mais fort comme je sais pas Grunewald est fort. Bon, c'est à la fois choquant et en même temps quand même ça vous transporte quoi.
Et d'autres artistes justement que vous aimeriez louer ou dont vous aimeriez nous parler, puisque on a vu que vous aviez des réserves sur certains artistes qui sont perçus comme étant oui. des grands artistes. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qu'il nous faudrait découvrir ou qu'on pourrait redécouvrir?
Malheureusement, elle est fermée, l'exposition, je crois, qui s'appelait Panorama au Palais de Tokyo, mais il y avait une installation au sein de cette exposition d'une artiste qui s'appelle Tatania Trouvé et qui je trouve aussi fait des choses très belles. Ce sont des installations qui jouent beaucoup sur le trompe-l'œil. Bon, donc sur une technique finalement assez ancienne, avec des jeux de miroirs, de glace, etc., qui vous font rentrer, ou en tout cas qui vous font rentrer seulement mentalement, parce que vous ne pouvez pas pénétrer à l'intérieur, qui vous font pénétrer mentalement dans des espaces très très paradoxaux comme ça, et c'est très très étrange, très séduisant. Enfin voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup.
Mathilde Serrel.
Pour vous, il y a une forme de retour à cette recherche de la beauté, à cette recherche du rêve, de faire rêver les gens devant les œuvres d'art, alors qu'il y avait eu justement toute une période de divorce, en fait, consommée entre cette recherche-là et ce que l'art proposait.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que pendant quand même plusieurs décennies, on s'est trouvé avec des formes d'art qui voulaient se mêler à la vie. Qui voulait, vous savez, c'était le discours que tenaient les pop artistes, c'est-à-dire de réduire ou de se tenir sur la frontière entre l'art et la vie. Mais simplement, cette frontière, bien souvent, les artistes ont basculé du côté de la vie, et c'est pour ça qu'on ça manquait un petit peu de dépassement, de transcendance, etc. Et je pense que quand même, en effet, il y a sûrement une tendance à revenir vers quelque chose qui prétend se situer en dehors de la vie et en témoigner et
la
transformer, en proposer et la sublimer. Enfin bon, peut-être le mot sublimer, je sais pas, il faut le manier avec précaution, mais enfin oui, essayer de le métamorphoser.
On termine en musique, Mathilde, avec un objet total.
C'est Charlotte Gainsbourg qui va sortir un nouvel album à l'automne, une œuvre composite d'abord, puisque comme elle avait pu le faire précédemment avec le groupe R ou le producteur de Radiohead, Nigel Godrich, cette fois ce sera aux côtés de Sébastien avec des textures électroniques saturées qui l'accompagnent, mais aussi un Daft Punk et un Beatles, Guy-Manuel des O Même Cristo et Paul McCartney. Bien entourée certes, mais pour la première fois aussi, en quête d'un objet total. Elle signe tous les textes, elle réalise le clip de l'extrait qu'on vient d'entendre à l'instant, Deadly Valentine, inspiré de ses expériences avec Lars von Trier sur Mélancolia. C'est la première fois que je me livre et que l'objet entier, m'appartient. L'occasion de voir donc comment elle va métamorphoser toutes les sensations esthétiques.
Et la dopamine. Vous y pensez à la dopamine, Mathilde?
Mais moi, je pense vraiment qu'on peut être transporté par une œuvre, qu'on peut être accro, en effet. Et parfois aussi, peut-être que ça peut être proche de l'orgasme.
On suivra ça, je pense.
C'est un peu exagéré.
Ah, vous voyez, Catherine Millet, nuance.
À propos de Giotto et Pierrot, vous avez pu dire que ça vous transportait.
Ah oui, ça c'est vrai, oui.
Presque dans
ce sens. Oui, mais enfin, j'ai pas eu d'orgasme quand même devant un Pierrot de la Francesca.